Tous les lundis.
Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceaux et nous retrouvons avec grand plaisir Pierre-Marie.
Avec plaisir, oui, bonjour.
Et donc Michel Lafon pour vous présenter les 10 films nouveaux à l'affiche cette semaine sur les écrans Manceaux. Donc on commencera par Maigret, puis Ils sont vivants, Un peuple, Zaï 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 Zaï, Compagnon, Sous le ciel de Kutaïssi, Le Chêne, Selon la police, Blacklight, et Les points desserrés. Pour ce qui est de la programmation musicale, je suis allé picorer un petit peu partout. Et comme vous avez un titre de film qui s'appelle Zaï 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 Zaï, si vous vous y connaissez vraiment en variété française, vous devez savoir que ça vient de quelque chose qui est un titre de Jodassin. Et ce titre de Jodassin, c'est Siffler sur la colline. C'est l'occasion de l'écouter sur Radio Alpa.
Elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit: c'est roulé dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée et tout en me montrant ses jolies dents, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï.
Siffler sur la colline, un titre que l'on entend dans le film Zaï 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 Zaï, et notamment sur le générique de fin. Premier film à l'affiche cette semaine, Maigret. Maigret, un film qu'on peut voir au Méga CGR, au Pâté Quinconce et au Colisée. C'est un film de Patrice Lecomte, réalisateur, scénariste, dialoguiste, cadreur français né en 1947. Il avait fait l'IDEC, l'ancêtre de la Fémis, des courts-métrages. Moi, je l'ai connu avec la bande dessinée dans Pilote. Et oui, et puis il a à son actif une bonne trentaine de courts-métrages, et on avait commencé en 75 avec Les WC étaient fermés de l'intérieur avec Coluche et Jean Rochefort, et ça s'était pas bien d'ailleurs passé entre Jean Rochefort et Patrice Lecomte, et pourtant ils se sont retrouvés ensuite, on va en reparler. Patrice Lecomte, c'est aussi le réalisateur des Bronzés, et puis des Bronzés font du ski, et puis du Bronzé numéro 3 plus tard. Il a également à son actif des comédies comme Viens chez moi, j'habite chez une copine, Ma femme s'appelle Reviens, Circuler, il n'y a rien à voir. Le film Les spécialistes, qui était un film d'action avec Lanvin et Giraudot. Jean Rochefort, on le retrouve dans Tandem avec Gérard Jugnot. En 89, une adaptation déjà de Simenon avec Monsieur Hir et Michel Blanc. 90, Le mari de la coiffeuse avec Jean Rochefort, qui avait obtenu le prix de Luc pour ce film. Enfin, pas Jean Rochefort, mais Patrice Lecomte. Des films encore à son actif comme Ridicule, comme Les Grands Ducs, ça c'est en 95-96, La Fille sur le Pont en 98, La Veuve de Saint-Pierre avec Daniel Auteuil, Juliette Binoche, et puis Rue des Plaisirs par exemple en 2001, L'Heure du Train avec Johnny Hallyday, et puis il a également fait des documentaires, Patrice Lecomte, Dogora, Ouvrons les yeux par exemple, et puis des dessins animés, Le Magasin des Suicidés, et puis entre temps d'autres films comme Mon Meilleur Ami avec Daniel Auteuil et Danny Boone, La Guerre des Miss, et puis les derniers en date, c'était en 2014, Une Heure de Tranquillité. Et puis il a aussi réalisé des épisodes de la série Vestiaire, et voilà, donc une filmographie qui n'est pas complète, là je ne peux pas vous les faire tous, mais très très complète en termes de genre, puisqu'il a un petit peu touché à tout. Maigret, 1h28, Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille, rien ne permet de l'identifier, personne ne semble l'avoir connue, ni se souvenir d'elle. Il rencontre une délinquante qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d'une autre disparition, plus ancienne et plus intime. À quelques rares exceptions près, la presse est plutôt favorable au film. Les Échos, Adrien Gombeau, Patrice Lecomte ressuscite le célèbre commissaire du Quai des Orfèvres. Polar, reconstitution somptueuse. Maigret, par la grâce de Depardieu, devient aussi un grand film sur la perte d'un enfant. Jean-Claude Raspienjas, La Croix, en adaptant Maigret et La Jeune Morte, paru en 54. Patrice Lecomte, c'est un très grand film, expressionniste et crépusculaire, marqué par l'interprétation émouvante et grandiose de Gérard Depardieu. Le Parisien, Depardieu joue Maigret comme personne avant lui. Jamais n'aurons-nous eu à ce point l'accès à l'abîme de perplexité du commissaire, à ce vide et cet abîme face à l'énigme du crime, mais aussi de l'existence elle-même. Isabelle Magnier dans Télé 7 jours, on se surprend à suivre avec un immense plaisir cette enquête à l'ancienne, sans analyse d'ADN ni ordinateur. Frédéric Strauss dans Télérama, massif et plein d'une force tellurique, Gérard Depardieu se fait aussi totalement aérien pour nous laisser deviner la face intime et moins familière d'un commissaire qui vit dans ses pensées avec ceux qui le hantent. Impressionnant. Marussia Dubreuil dans Le Monde, Patrice Lecomte réussit une adaptation sobre du héros de Georges Simenon, pardon. Libération, Didier Perron, l'auteur des Bronzés embarque Depardieu dans le rôle titre et neutralise dans la naphtaline de l'adaptation surdécorée et accessoirisée. La véhémence résiduelle de la star en roue libre est totalement désinvestie ou bourrée. Première, Gaël Golen, les intentions sont là, intéressantes, la démarche indiscutable, mais on reste sous l'impression d'une tentative essoufflée qui rate le degré de démesure et d'ampleur requis pour se qualifier dans la catégorie des grands films hantés ou théoriques. Maigret, film proposé par le Colisée, le Pathé Quinconce, le Méga CGR, voilà, eh bien Depardieu en Maigret, cela paraît comme une telle évidence qu'on se demande bien pourquoi personne n'y avait pensé auparavant. Bah, c'est chose de faite avec Patrice Lecomte, qui réalise un film totalement old school et revendiqué d'ailleurs comme tel avec cette enquête du célèbre commissaire. Fatigué, alourdi, désabusé, il s'intéresse à une jeune femme, une jeune morte, anonyme, une affaire banale qui le touche profondément, on en devinera les raisons intimes au cours du film. Il s'agit donc de retrouver le ou la coupable de l'homicide de cette jeune femme, cette femme sans histoire, dans le Paris des années 50, en cherchant, grâce à des indices, beaucoup de méthodes et de patience, qui a pu être le mobile de ce meurtre et, bien entendu, le coupable. Alors, grand soin accordé aux détails dans la décoration, les accessoires, les costumes, reconstitution d'une atmosphère, d'un Paris fantomatique avec un grand soin accordé à la lumière, pointe d'humour dans les dialogues, un film totalement à l'opposé des polars contemporains, une fidélité absolue à l'esprit des romans de Simenon, donc pas d'action, aucune poursuite, pas de coup de feu, pas de baston, juste un raisonnement à partir de quelques indices et une belle dose de psychologie. On est donc dans l'hommage à une tradition du vieux polar français. On peut trouver cela vain et inutile. Pas un jeune ne se hasardera dans la salle, à mon avis. Qu'importe, bah, les vieux comme moi, eux, apprécieront le film. Un film simple qui parle d'une époque révolue, aux mœurs et aux relations sociales qui n'ont plus cours. Et puis un grand Depardieu composant un Maigret très humain dans sa relation avec sa femme, ses adjoints et puis cette jeune femme qu'il prend sous sa protection. Donc c'est à recommander à ceux qui ont plus de 50-60 ans. Eux, ils s'y retrouveront. Alors Pierre, tu t'y retrouvais ?
Oui, je voulais absolument voir ce film tant je suis attiré par les polars à suspense bien ficelé. Je voulais aussi voir comment Gérard Depardieu allait tenir le rôle titre du fameux commissaire, cher à Georges Simenon, après mes souvenirs d'enfance que j'ai encore de Jean Richard et sa célèbre pipe à la télévision.
Exactement.
Gérard Depardieu impressionne en Maigret dans une adaptation fascinante de Patrice Lecomte. C'est pas de moi, c'est de Télérama. J'avais lu ça avant la séance. Patrice Lecomte qui n'hésite pas à se référer à Hitchcock d'ailleurs, avec des films comme notamment La mort aux trousses ou Vertigo. Et je n'ai pas été déçu du tout dans ce film, tant ce film adapté du livre Maigret et la jeune morte mène de front deux intrigues, la recherche du coupable certes, mais aussi la recherche de l'identité et de la personnalité de la victime. Gérard Depardieu est, comme à son habitude, excellent dans son rôle d'un Maigret attendrissant, mélancolique, touché par la mort de cette jeune fille encore mineure. Ah oui, en 1954, à 8 ans, on est encore mineur. Alors, pour mémoire, la majorité à 18 ans, ne venant que 20 ans plus tard, en 74, sous Giscard, absolument. Alors, amateurs d'intrigue, n'hésitez pas à aller voir Maigret qui ne dure en plus qu'une heure trente.
Exactement. Voilà. Donc, c'est au Colisée, au Méga CGR, au Pâté Quinconce. Ils sont vivants. Là, par contre, ça n'est que au cinéma, les cinéastes. C'est un film de Jérémy El-Kaïm. C'est son premier long métrage. Il avait réalisé auparavant un court métrage. C'est un acteur. Et là, il est réalisateur, scénariste et producteur. Il est en 78. On l'a vu dans des films comme, par exemple, Police, La Reine des Pommes, La Guerre est déclarée, Les Bêtises, Irréprochables. Voilà. Donc, Jérémy El-Kaïm, premier film. Et puis, une ou deux séances par jour au cinéaste pour ce film d'une durée d'une heure 52. Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa mère. Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé clandestinement en Europe, va bouleverser son quotidien et ses convictions. Par amour pour lui, elle va devoir défier les préjugés de son entourage et les lois de son pays. La rédaction de Elle parle d'un drame charnel qui évite l'écueil des bons sentiments. Corinne Renounati va dans la croix. Pour ce premier long métrage, la caméra sensuelle de Jérémy El-Kaïm donne à ressentir l'éveil des sentiments et des corps. Ils sont vivants, échappent aux écueils de la bluette et du manichéisme. Lélo Jimmy Battista dans Libération, premier long métrage de l'acteur Jérémy El-Kaïm. Ils sont vivants, montre assez vite qu'il a le cœur à la bonne place. Le film navigue en zone grise, n'hésitant pas à démonter les clichés, cherchant avant tout à montrer une vérité et y arrive au prix d'un numéro d'équilibriste parfois glissant. Thierry Chaise dans West France, une sensualité qui lui permet de transcender son sujet et sortir des sentiers battus. Le Monde, Véronique Coapé, parle d'un premier long métrage convaincant. Barbara Théâtre dans le Journal du Dimanche, adapté d'une histoire vraie. Cette chronique foncièrement humaniste et réaliste raconte l'histoire d'amour finalement possible entre deux solitudes qu'a priori tout semble opposé. Thierry Chaise en première, El-Kaïm filme ses corps comme aimantés et se désire plus fort que tout, avec une sensualité qui amène ce long métrage, loin du banal film à sujet, une réussite pour Thierry Chaise donc. Jean-Baptiste Morin, les occupe-t-il ? À force de vouloir tout équilibrer, ils sont vivants, ne choisissent pas et ne décollent jamais. Voilà, c'est le seul qui n'a pas vraiment apprécié ce film. Ils sont vivants, proposé par les cinéastes. C'est donc inspiré d'une histoire vraie, celle de Béatrice. Et Béatrice est une aide-soignante dans un EHPAD. Elle est récemment veuve. Elle vit avec son fils et sa mère dans une maison à Calais, manifestant au départ peu d'empathie pour les migrants. Et par un concours de circonstances, elle va être amenée à les côtoyer, être émue par leur sort, par leur misère. Et puis, elle va les aider. Elle va les aider en devenant une bénévole engagée et même vivre une histoire d'amour intense avec l'un d'entre eux d'origine iranienne, qui, comme tous les autres, rêve de rejoindre l'Angleterre. Alors, à cause de cet amour, eh bien, elle va devoir s'engager davantage et affronter la désapprobation de son milieu, voilà, de ses proches. On ne contestera pas la conviction mise par Marina Foïs pour incarner cette femme d'âge mûr, dont on devine que l'existence n'a pas été rose tous les jours avec son flic de mari et qui découvre la passion dans les bras de ce réfugié iranien. La première partie du film, moi, je l'ai trouvée assez intéressante avec cette évocation quasi-documentaire de la fameuse jungle de Calais. La deuxième partie, les moins, me concerne moins. Je dois dire que l'histoire d'amour entre Béatrice et Mokhtar comporte beaucoup de scènes superflues, des scènes de sexe notamment qui m'ont paru bien être à rallonge. Mais enfin bon, globalement, je pense qu'il faut se sentir impliqué dans la problématique des migrants pour être vraiment sensible à l'histoire. Je reconnais que c'est pas vraiment mon cas. Le film m'a paru donc bien long, 1h50, mais bon, ça m'a paru quand même bien long. De plus, l'aspect charnel dans la relation m'a paru trop développé, même si je comprends parfaitement que pour expliquer l'intensité de la relation entre Béatrice et Mokhtar, il était indispensable de filmer certaines de ces scènes. Bon, on aurait pu aussi avoir une caméra moins agitée, mais ça, c'est un peu la mode. La caméra à l'épaule pour montrer l'urgence de la situation. Bon, moi, je suis très mitigé sur le film Ils sont vivants, mais je répète, je ne me sens pas trop concerné par le problème. Puis bon, voilà, quoi. Ils sont vivants. Les cinéastes, uniquement les cinéastes, tout comme le film Un peuple, c'est un documentaire de 1h44 de Emmanuel Gras. Emmanuel Gras, c'est un réalisateur, scénariste, directeur de la photo, né en 76. Il a auparavant réalisé d'autres documentaires. En 2011, Bovine. En 2014, 300 hommes. Et en 2007, Makala. Là, ça dure 1h44. On est en octobre 2018. Le gouvernement Macron décrète l'augmentation d'une taxe sur le prix du carburant. Cette mesure soulève une vague de protestations dans toute la France. Les citoyens se mobilisent dans tout le pays. C'est le début du mouvement des Gilets jaunes. À Chartres, un groupe d'hommes et de femmes se rassemble quotidiennement. Parmi eux, Agnès, Benoît, Nathalie et Alan, s'engagent à corps perdu dans la lutte collective. Comme tout un peuple, ils découvrent qu'ils ont une voix à faire entendre. Le Parisien, ce qui rend Un peuple d'Emmanuel Gras si profond et émouvant, c'est que ce documentaire sur les Gilets jaunes suit une section du mouvement, celle de Chartres. Et l'intéresse celle-ci, Benoît, Agnès, Nathalie et Alan, dont il interroge les motivations et les angoisses. Olivier de Bruyne dans Marianne, avec une subtilité et une intelligence qui hantent chaque plan du film, Emmanuel Gras donne à voir l'espoir qui habite ses militants d'un nouveau genre, leur organisation balbutiante, leur hantise du déclassement enfin dépassée. Thierry Chaise dans West France parle d'un document passionnant. Marie Cailleté dans Télérama, au fil de la chronique haletante et sensible, se font jour les antagonismes sur les stratégies adoptées, les craintes face aux dérives du mouvement, la peur de voir leur engagement discrédité par les violences dans la capitale, les inimitiés camouflées, les rivalités autour du leadership. Muriel Joudé dans Le Monde, Emmanuel Gras rend compte avec justesse des métamorphoses d'une révolte sociale. Benjamin Puech dans Le Figaro, une vision certes intéressante, mais qui ne raconte qu'une partie de ce mouvement, parfois violent et souvent excessif. Ludovic Béot, Les Inrecuptibles, le film a beau être prenant, passionnant, à plusieurs moments, il laisse hélas trop souvent l'impression de demeurer dans le confort de l'immense matière qu'il saisit. Voilà, ça s'appelle Un peuple, c'est un documentaire d'1h44, avec une séance par jour, et lundi, le réalisateur vient, je crois... Non, c'est pas lui qui vient. Il y a une séance ciné-débat, mardi à 20h, avec la LDH, la Ligue des Droits de l'Homme, peut-être ? Je sais pas, non. Peut-être en présence de Jean-Philippe Melchior, docteur en sciences politiques. Bon, ça, c'est lundi soir à 20h, cette séance avec donc débat. Voilà, donc, le film Un peuple, proposé par les cinéastes. Pause musicale. La chanson s'appelle Stronger Than Before, c'est John Coggins, totalement inconnu au bataillon, et c'est le titre qu'on entend sur le générique de fin de Blacklight sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. C'est la première et sans doute la dernière fois que vous écoutez Stronger Than Before, John Coggins.
Every story needs a hero, like every bullet needs a gun. Well, I've been looking for a battle cry. Now will I stand or will I run? If I fall deep into a flood, get washed by the water, well, I'm stronger. Every soul fights a demon that it must rise to overcome. When fate wants to feed me to the wolves at the door, whatever doesn't kill me makes me strong.
Hunted like an animal, a lamb for
Stronger Than Before, John Coggins, la chanson du générique de fin du film Blacklight.
Je ne connais pas.
Moi non plus. Zai 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 Zai, c'est un film proposé uniquement par le Pâté Quinconce. C'est un film de François Dezagna, duré 1h22. François Dezagna, c'est un réalisateur, scénariste, acteur né en 73. Il a d'abord été un réalisateur pour Michael Youn, puisqu'en 2002, il réalise La Buzz, avec Michael Youn et Vincent Dezagna, qui doit être son frère. 2003, Les 11 commandements avec les mêmes. 2007, 15 ans et demi, avec Daniel Auteuil et Juliette Lambolé. Ça, ça avait été co-réalisé avec Thomas Soriot. 2013, Le Jeu de la Vérité, avec Philippe Lelouch, Vanessa Demouille, d'après la pièce d'ailleurs de Philippe Lelouch. 2016, Adopte un veuf, avec André Dussolier, Bérangère Krief et Arnaud Ducré. Et en 2018, Le Gendre de ma vie, avec Cadmérade et Pauline Étienne. Fabrice, acteur de comédie, réalise qu'il n'a pas sa carte de fidélité alors qu'il fait ses courses. Malgré la menace d'un vigile, il parvient à s'enfuir, commence alors une cavale sans merci pour celui qui devient rapidement l'ennemi public numéro 1. Alors que les médias s'emparent de l'affaire et que le pays est en émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, trouve un point de chute inattendu quelque part en Lozère. La revue de presse, Caroline Vier, 20 minutes, Zai 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 Zai, est un petit bijou d'humour loufoque dans lequel on reconnaît aussi Julie Depardieu, Julie Gayet et Ramzi Bedia. Olivier Delcroix, dans Le Figaro, François Dezagna adapte avec finesse le roman graphique absurde de l'auteur de BD, Fab Caro, hein, Jean-Paul Rouve est parfait. Cinéma teaser, Perrine Kenson, un univers visuel et musical bien pensé, proche de notre réalité mais décalé, juste ce qu'il faut pour coller à l'esprit de la BD. Stéphane Dreyfus la croit, malgré quelques belles trouvailles, cette adaptation de la bande dessinée à succès de Fab Caro ne parvient pas toujours à restituer l'humour absurde de son modèle. Muriel Joudet, Le Monde, fidèle jusqu'à paraître un peu sage, il n'en reste pas moins que le film offre à la comédie populaire une sophistication d'écriture bienvenue. Olivier de Bruyne dans Les Échos, François Dezagna adapte la bande dessinée à succès de Fab Caro et signe une comédie délirante sur notre époque et ses travers, un film cocasse mais répétitif. Thierry Chaise en première, le burlesque règne en maître au fil d'un road movie qui pose un regard tout à la fois critique et hilarant sur les dérives paranoïaques de notre société de plus en plus crispée sur les questions identitaires. Ouais, j'ai pas trouvé ça. Seul hic, mais d'importance, son passage par le grand écran n'apporte rien, car la mise en scène de François Dezagna n'arrive pas plus à traduire qu'à transcender le propos. Voilà, le film proposé uniquement au Pâté Quinconce. Zai 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 Zai, et ben, c'est un point de départ absurde. Fabrice, qui est un acteur de comédie, c'est bien précisé, a oublié la carte de fidélité du magasin où il fait ses courses. Grave erreur. Sous la menace d'un vigile, il réussit quand même à s'enfuir et dès lors, il devient l'homme le plus recherché de France. Alors, le ton est donné dès le départ et on restera sur ce ton tout au long du film à travers cet enchaînement de situations absurdes. C'est l'occasion de se moquer pêle-mêle de notre système médiatique et de ses travers. Les chaînes d'infos continuent, les acteurs, les chansons solidaires, mais aussi la police, et puis aussi l'antisémitisme, et j'en passe. C'est souvent très drôle, parce que loufoque, décalé, voire déjanté. Parfois, faut bien le reconnaître aussi, ça tombe un petit peu à côté, mais c'est quand même différent de la comédie à la française habituelle. Alors, n'ayant pas lu la bande dessinée dont le film est adapté, je ne peux pas vous dire si le film est fidèle à cette bande dessinée ou pas. En tout cas, en l'état, c'est une comédie fort agréable, où l'on rit à de nombreuses reprises, et c'est bien là l'essentiel pour une comédie. On pense même par moments à l'esprit des films de Jacques Tati, pour certains côtés visuels dans le film. Voilà, c'est un film que je recommande quand même, malgré tout, cette semaine. C'est peut-être même le seul que je vais vraiment... Ah si, il y a Maigret quand même que je recommande cette semaine. Voilà. Zai, 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 zai. Compagnon, c'est au Méga CGR et c'est au Pâté Quinconce. Compagnon, c'est un film de François Favra, acteur, réalisateur, scénariste, auteur auparavant de courts-métrages. Et puis en 2003, Le Rôle de sa vie avec Agnès Jaoui, Karine Viard et Jonathan Zakaï. 2008, La Sainte Victoire avec Christian Clavier et Clovis Cornillac. Et 2014, Boomerang avec Laurent Lafitte, Mélanie Laurent et Audrey Dana. 1h50 pour Compagnon avec Agnès Jaoui, Pio Marmaille et Nadja. À 19 ans, passionnée de street art, Naël est contrainte de vivre avec d'autres, de suivre avec d'autres jeunes un chantier de réinsertion. La dernière chance pour éviter d'être séparée de ses proches. Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable du chantier, lui présente un jour la Maison des Compagnons de Nantes, un mode de tradition qui prône l'excellence artisanale et la transmission entre générations. Aux côtés de Paul, compagnon vitrailliste, qui accepte de la prendre en formation dans son atelier, Naël découvre un univers au code bien différent du sien, qui, malgré les difficultés, pourrait donner un nouveau sens à sa vie. Très, très, très partagé, la revue de presse. 20 minutes, Caroline Nivier. Ce film passionnant, signé François Favra, lève le voile sur les rituels de cette organisation professionnelle fondée au Moyen-Âge. Cette organisation, c'est les Compagnons du Devoir. Hein. Le Parisien, ce milieu méconnu, mystérieux, donne de la profondeur et une intrigue assez classique, mais réjouissante. Julien Barcillon, Télé 7 jours, François Favra signe une comédie sociale sur le vivre ensemble. Son atout principal, la découverte d'une institution séculaire dont les valeurs, confiance, générosité, fraternité, sont portées à l'écran par des comédiens attachants. Le Journal du Dimanche, Baptiste Thion, au fil de son intrigue balisée, le film coche toutes les cases du récit d'apprentissage, mais il est aussi à l'image de sa jeune comédienne au charme sauvage, touchant et convaincant. François Forestier dans l'Obs, éloge vibrant du compagnonnage, ce film est une fable édifiante, portée par la présence de Nadja Ben Saïd et par la rage sous-jacente de Pio Marmaille. Sans ces deux acteurs, le film resterait au stade d'essai bien pensant. Avec eux, il y a un feu qui couve. Louis Guichard, Télérama, Agnès Jaoui, la jeune Nadja et Pio Marmaille sont parfaits. Le scénario minutieusement construit et la Maison des Compagnons de Nantes joliment filmée, mais le résultat s'étire inexplicablement, ne quittant jamais des rails visibles depuis le départ. Thierry Chaise en première, mise en scène sans relief, Compagnon ne dévira jamais, rebondissement téléphoné compris, du sentier tout tracé de cet hymne à la transmission entre générations qui fait fi des origines sociales. Jean-Marc Lalanne, s'y occupe-t-il ? L'énigme tient plutôt dans cette insipide fable en forme de tract publicitaire pour la Maison des Compagnons, à la présence d'acteurs et d'actrices qu'on aime beaucoup. J'ai vu Compagnons, et donc ce film qui est proposé par le Méga CGR et le Pathé Quinconce. Naël, donc, est une jeune fille de cité, perpétuellement à fleur de peau, elle est en stage d'insertion. Elle est repérée par Hélène, qui est sa référente de chantier, et qui par ailleurs appartient à l'organisation des Compagnons du Devoir. Et donc, Nadja se voit offrir l'opportunité d'effectuer un stage d'apprentissage dans l'organisation section vitrier d'art, aux côtés de Paul, compagnon vitrailliste, qui est peu enclin d'ailleurs au départ à faire confiance à Naël et à la former au métier. Mais les choses ont évolué forcément. Le film raconte donc le choc de deux mondes. Alors certes, le scénario est ultra prévisible dans son adaptation, dans son évolution vers la rédemption. L'intérêt essentiel du film, si vous allez le voir, c'est ça l'intérêt du film, c'est cette plongée dans le monde du compagnonnage, donc une institution millénaire aux valeurs tellement éloignées de notre monde contemporain. Ces valeurs, c'est le respect des traditions dont certaines nous paraîtront complètement archaïques, voire complètement ringardes. La fraternité, l'entraide, la solidarité, le souci d'atteindre la perfection, la rigueur morale et la rigueur dans le travail, voilà, tout ça c'est les valeurs. Tout cet aspect est parfaitement documenté dans le film. Ça c'est passionnant et ça permet vraiment au film de sortir de l'ordinaire parce que sinon, on a le schéma ordinaire classique sur les jeunes de banlieue. Naël, elle vit dans un quartier gangréné par le trafic de drogue. Elle se retrouve mêlée à ce trafic et va devoir lutter pour réussir à s'en sortir à travers l'apprentissage d'un métier pour lequel elle est douée. Voilà, ça c'est le film. Le film donc repose sur les oppositions de caractère entre Naël, l'impulsive, qui peut dégoupiller à tout moment, Nadja Ben Saïd est confondante de naturel, de spontanéité, et Paul, ce compagnon, c'est Pio Marmaille, rigoureux à l'extrême, et entre les deux, Hélène, qui est mère de la maison, mère, c'est comme ça qu'on dit, hein, M-E, accent grave, R-E, mère de la maison des compagnons, Agnès Jaoui, qui fait sans cesse le lien entre donc Naël et ce compagnon, joué par Pio Marmaille. Elle incarne la compréhension, la tolérance, et elle a décelé le potentiel de Naël, et elle veut lui offrir la chance de s'en sortir. Donc c'est un film plein de foi en l'humanité, et qui surtout donc nous permet de pénétrer un monde assez fascinant, où la solidarité et l'excellence sont vraiment les maîtres mots. On peut espérer que cela fera une excellente promotion, et devrait permettre d'attirer certains jeunes vers le travail manuel, qui s'est puissamment réhabilité, facteur d'intégration. Sinon, bah, c'est une histoire d'apprentissage stéréotypé, prévisible, avec beaucoup de bons sentiments. Je répète, avoir uniquement pour le côté compagnon.
Les compagnons qui sont presque nos voisins ici,
oui,
à Radio Alpa.
Absolument, tout à fait, ils sont dans le Vieux Mans.
Oui. Voilà.
Et je sais qu'ils ont participé, non pas au film, mais quand le réalisateur est venu avec Nadja, il y a eu une conférence de presse dans la maison des compagnons qui a été organisée. Voilà, compagnons. Sous le ciel de Koutaïssi, on revient au cinéaste. Sous le ciel de Koutaïssi, c'est proposé par les cinéastes avec une ou deux séances par jour pour ce film d'Alexandre Kobéridze. Alexandre Kobéridze. Le film dure 2h31.
Oula,
Alexandre Kobéridze, c'est un acteur, monteur, réalisateur géorgien, né en 84, c'est son premier long métrage. C'est le coup de foudre quand Lisa et Georgie se rencontrent par hasard dans les rues de Koutaïssi. L'amour les frappe et si soudainement qu'ils en oublient même de se demander leur prénom. Avant de poursuivre leur chemin, ils décident de se retrouver le lendemain. Ils sont loin de se douter que le mauvais œil leur a jeté un sort. La revue de presse est unanimement élogieuse pour ce film sous le soleil de Koutaïssi. La Croix, Céline Rouden, en pleine pandémie, ce film d'une grande inventivité et fantaisie, véritable hommage au cinéma muet, avait fait l'effet d'une bulle de fraîcheur. Il est question d'amour, de mauvais œil, de chien et de football, mais aussi de la magie du cinéma qui permet de révéler ce que l'on ne peut voir à l'œil nu. Le Figaro, Olivier Delcroix, utilisant la poésie du quotidien, une voix off goguenarde et des chiens fans de foot, ce film intrigant fait l'école buissonnière d'un cinéma classique et balisé. Baptiste Thion, le journal du dimanche, à l'heure où la création se formate de plus en plus, ce conte généreux qui ose les détours et les tours de passe-passe ressemble à une échappée hors du temps et fait un bien fou. Xavier Lerper dans l'Obs, en confiant le récit à une voix off ironique et en faisant le choix de la longueur, Alexandre Kobéridze prend des risques, mais sa flânerie poétique déborde d'inventivité et de charme. Thomas Borès dans West France, la mise en scène très épurée, contribue par sa simplicité à toucher sa cible, le cœur du spectateur. Thomas Borès toujours, mais cette fois-ci dans Première, cette romance à l'humour grinçant signe du géorgien Alexandre Kobéridze, portée par une mise en scène d'une précision flippante, ne ressemble à rien de connu. Accueillons-la à bras ouverts. Eh bien, je ne suis pas allé voir parce que 2h30, ça fait beaucoup.
Même chose pour moi.
Oui. Voilà, donc c'est un film qu'on peut voir quand même.
C'est un peu long.
Au cinéaste, avec une, voire deux séances par jour. Le Chêne, là, c'est exclusivement au pâté qu'on peut voir ce documentaire réalisé par Michel Sédoux et Laurent Charbonnier. Michel Sédoux, c'est un réalisateur et producteur de la famille Sédoux, bien entendu, propriétaire de la chaîne Pâté. Donc, premier long métrage, et puis Laurent Charbonnier, c'est un réalisateur, directeur de la photo, ingénieur du son. Il a réalisé auparavant, en 2007, Les Animaux Amoureux, et en 2019, Chambord, tous deux des documentaires. Il était une fois l'histoire d'un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d'aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun. Écureuils, geais, fourmis, mulots, tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux, celle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu'à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s'exprimer. Thierry Chaise dans West France parle d'un bijou poétique. La rédaction du Parisien, bien calée dans son fauteuil et même accrochée à lui parfois tant l'action s'avère intense, on écarquille les yeux devant les images éblouissantes de ce chêne majestueux situé près d'un étang qui constitue un fascinant écosystème à lui tout seul. Coralie Schwab dans Libération déclare que le film est singulier et réussi. Stéphanie Belpech, dans le journal du dimanche, une immersion totale dans un microcosme fascinant et vertigineux. Thierry Chaise, cette fois-ci dans Première, un film puissamment sensoriel avec un héros, un chêne vieux de 210 ans, et une multitude de personnages secondaires, tous ceux qui vivent dans son écosystème, dont les aventures tiennent du suspense hitchcockien, tant la survie de certains ne tient qu'à un fil. Céline Marchand-Ménard, Télérama, grâce à un travail passionné d'observation et de patience, Laurent Charbonnier et Michel Sédoux captent au plus près l'harmonie poétique qui relie ces êtres vivants. Ça dure 1h22, c'est proposé en exclusivité par le cinéma Pâté. Je n'ai pas vu, mais j'aurais bien eu envie de le voir, mais il fallait trouver le temps et je ne l'ai pas trouvé.
Pas vu non plus.
Voilà. Allez, dans Compagnon, on entend beaucoup de musique rap, parce que c'est la musique des jeunes de banlieue. Et donc, on va écouter ici Incompris d'un rappeur qui s'appelle Mélan ou Melan, je ne sais pas comment on doit prononcer. C'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Voilà.
Au ok. Moi, je suis incompris parce que je rentre pas dans leur case. Un balle de son dans le casque, parce que je me casse dès que j'en ai l'occasion. Parce que je vis pleinement, parce que je te parle vraiment. Parce que la liberté et moi, on est comme des aimants. Je suis incompris par leur hiérarchie, mais je m'agite et j'agis. Écrire pour élever les consciences, c'est de ça qu'il s'agit. Loin de leur format, j'ai vu trop de branches à virer. Je te parle des gens, moi, pas de leur planche à billets. Incompris parce que mes profs captaient pas ce que le rap m'apporte. Qu'un beau jour je me suis enfui en force qu'on me claque la porte. Parce qu'à rester droit dans les virages on tapera le bord. Parce que je trouve des schémas de vie semblables dans des choses qu'on pas de rapport. Incompris depuis que la rue m'a fait des chants traumatiques. Que la drogue a repris son dû, la vie des potes de ma clique. Que je rentre pas dans les rangs car ça me les casse. Que ma chemise noire a vécu plus d'enterrement que de soirée classe. Incompris par l'état, les tasses et les zonards de teuf. Les rappeurs, les cerveaux cassés par ces connards de keuf. Parce qu'on est ni trop faible ni trop fort. Parce que je reste vrai, parce que je passe mes nuits derrière un microphone. Dis-leur que je m'en tape, que j'attends pas qu'on vienne me chercher. Que si être fou c'est être moi, alors je suis fier d'être perché. Que je ferai tout pour que le savoir éduque ma connaissance. J'ai touché le fond pour trouver le sens, cet album c'est ma renaissance. Incompris car je fais du son pour apaiser ma ville. La conseillère d'orientation a bien failli baiser ma vie. Parce que je suis le seul à croire que ma passion c'est mon taf. Que les caissons crachent et qu'à faire du son tard. Je déplacerai des montagnes, ferme-la un peu, tu m'insupportes. Toi t'habites c'est ta lutte. En décalé mais je le vis bien d'habiter sur la lune. Incompris parce que je suis pas de ceux à qui on jette des roses. Inconnu parce que rester soi paye moins que de jouer des rôles. J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je me tais quand il faut se taire, je prends la plume quand il faut se plaindre. J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je prends la plume quand il faut se plaindre.
Moi je trouve l'inspi dans des riens qui font du tout. Bientôt 25 piges que j'analyse. Que je vois des gens bien au fond du trou. Entre cœur ou trèfle, loin d'être à l'aise, y'a pas d'hasard. J'ai pas beaucoup de rêves, mais si mon son tapait, ça sera déjà ça. Je suis incompris parce que j'emmerde le système et ses modalités. Que je kiffe vandaliser parce qu'on a pas les mêmes mentalités. Mon rap, une contestation à toutes ces familles oubliées. Un cri de protestation, je représente les familles d'ouvriers. Incompris depuis la maternelle. Dans le vice, j'ai vu trop de gens prêchant pensant que l'argent les rendrait fils de l'éternel. Moi je suis un gosse de l'univers, du soleil et du vent. Un fils du verbe, on s'entendra pas si c'est l'oseille que tu ventes. Des lois je m'en cogne, ta bourse est maléfique. Sais-tu ce que l'adrénaline est bonne quand tu te fais courser par les flics. J'hallucine, c'est moche, on se met nous-mêmes des pénalités. La jalousie, c'est derrière son prochain pour ses qualités. Je suis incompris, mon sort tu le captes. Qu'on soit aigri, je m'en tape. J'écris pour les esprits qui sortent du cadre. Pour ceux en marche, quand on marre d'en partir bêtement. Pour ceux qui aiment la vie, qui se mettent en marche avant de partir vraiment.
J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je me tais quand il faut se taire, je prends la plume quand il faut se plaindre. J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je prends la plume quand il faut se plaindre.
Je prends la plume quand il faut se plaindre.
Ok, incompris, Aslan B, Mélan, ok. Mère ta musique, ta musique.
Compris, Melan, un titre que l'on entend dans le film Compagnon. Selon la police, c'est un film proposé par les cinéastes. Une ou deux séances par jour pour ce film français de Frédéric Vidot, réalisateur, scénariste et même acteur à l'occasion. Il avait réalisé en 2003 Variété française, où il jouait, avec Hélène Filière. En 2012, À moi seul, avec Agathe Bonitzer, Hélène Filière et Reda Kateb. Ça dure 1h51 selon la police. Non, c'est pas selon la police que ça dure 1h51, ça dure 1h51 selon tout le monde. Voilà. Un matin, un flic de terrain usé jusqu'à la corde, que tous dans son commissariat appellent ping-pong, brûle sa carte de police et disparaît sans prévenir. Durant un jour et une nuit, ses collègues le cherchent, le croisent et le perdent dans Toulouse et sa banlieue. Mais chaque heure qui passe rapproche un peu plus ping-pong de son destin. Très partagé, la presse. Jacques Maurice dans Télérama. Frédéric Vidot ne juge personne, il donne vie à chacune et chacun, faisant de ces femmes et hommes entre 20 et 60 ans des personnages tragicomiques, pétris de contradictions, frustrés et sous tension. Clarisse Favre dans Le Monde, étonnant objet que cet élégant polar, au tempo calme et millimétré. Étienne Sorin dans Le Figaro, Frédéric Vidot charge un peu trop la barque, à force de vouloir cocher toutes les cases du mal-être policier, dépression, bavure, suicide. Il parvient malgré tout à dépasser le traité de sociologie. On sent les hommes et les femmes sous l'uniforme. Corinne Renaud-Nativelle dans La Croix. Après Moi seul, inspiré de l'histoire de Natacha Campouche, Frédéric Vidot revient avec un tableau contrasté mais un peu artificiel de l'état de la police aujourd'hui. François Forestier dans l'Obs, fondé sur des anecdotes authentiques, le film de Frédéric Vidot est décousu, prévisible, bancal. C'est dommage, le sujet d'actualité se prêtait au polar noir. Il ne reste qu'un brouillon bien intentionné mais maladroit. Le Parisien, tout est bancal, raté, le récit qui tourne en rond quand il ne donne pas envie de ronfler, les scènes qui comptent, les rapports entre la police et les jeunes en banlieue, avec des séquences parfois très limites, ou celles dans le commissariat absolument désolantes de naïveté, une image digne d'un téléfilm des années 80. Thierry Chaise en première, c'est précisément ce mélange des genres, symbolisé par ce choix d'une écriture sophistiquée pour raconter une réalité quasi-documentaire qui ne fonctionne pas. Cette artificialité abîme le récit jusqu'à une dernière ligne droite si prévisible qu'elle en perd tout impact. Selon la police, c'est proposé par les cinéastes. Il s'agissait sans doute pour le réalisateur Frédéric Vidot d'évoquer à travers son film le malaise qui sévit, dit-on, dans la police française à travers le portrait de quelques flics de terrain d'un commissariat de Toulouse saisi à travers une journée de travail avec un point de départ tout simple, un simple flic vieillissant surnommé Ping Pong quitte son commissariat un matin après avoir brûlé sa carte professionnelle et il erre dans la ville pendant que ses collègues vaquent à leurs occupations. On ne sait si c'est volontaire de la part de Frédéric Vidot et donc peut-être est-ce un effet de style, mais l'ensemble c'est quand même un beau ratage. Hein. Une mise en scène, une direction d'acteur catastrophique, des dialogues d'une médiocrité affligeante, une accumulation de clichés dans les situations et les personnages, faisant plus que frôler le ridicule parfois. Bref, un film d'une maladresse confondante. On ne voit pas quoi sauver, malgré sans doute les bonnes intentions de départ, de montrer les flics dans leur quotidien avec une galerie de personnages allant du vieux policier usé au type raciste en passant par les jeunes flics pleins d'illusions et j'en passe. Et puis une série de situations allant de la bavure au contrôle musclé, au suicide. Bon, le gros problème du film, c'est qu'il passe après d'autres sur le même thème, mais qui étaient bien meilleurs, plus efficaces, plus solides. Exemple, Bac Nord, par exemple, récemment. Il y avait vraiment infiniment mieux à faire, mais tout est gâché par une piètre réalisation atone. Alors, Pierre ?
Alors, un scénario assez particulier pour cette peinture d'un commissariat de police toulousain, puisque le film est découpé en plusieurs séquences dans lesquelles on suit la vie de chacun des policiers, avec tout de même un fil rouge. Alors, les policiers, il y a 5 portraits. Le fil rouge, c'est le parcours de tennis, partons de ping-pong. Non, mais je voulais citer Coluche, là, parce qu'il il disait que le tennis, c'était pareil que le ping-pong, sauf que les joueurs jouent debout sur la table.
Voilà.
Alors donc, ping-pong, celui qui d'entrée brûle sa carte de policier et erre dans les rues. Difficile d'adhérer pour moi, en tout cas, au rôle de Laetitia Casta en flic de la bac de nuit.
Affreux.
Oui, la bac de nuit, ouais, donc, mauvaise expérience personnelle pour moi. Alors, j'ai pas à dire. La police va mal, donc, la société va mal. Une société policière ou non, en déliquescence. Une peinture contemporaine dans laquelle, quand même, brille de mille feux la jeune Sophia Le Saffre. 24 ans, qui n'est pas une débutante, pourtant, puisqu'elle a commencé à l'âge de 13 ans. Dans Les Mythos, ça te dit quelque chose, Michel ?
Vraiment.
Non, pas du tout. De Denis Thibault, Les Mythos. Mmh. Et compte à ce jour quand même une dizaine de films, c'est pas mal. Alors en conclusion, oui, bah, je suis comme toi, ça m'a pas emballé, mais ce long métrage de Frédéric Vidot ne peut quand même laisser indifférent sur la vie dans un commissariat.
Selon la police, c'est au cinéma Les Cinéastes. Blacklight, c'est au Méga et au Pathé Quinconce. C'est un film de Mark Williams, réalisateur et producteur américain. Il avait réalisé en 2016 Last Call, directement envoyé sur les étagères de DVD. Et en 2020, The Good Criminal, avec déjà Liam Neeson. Blacklight, 1h48. Pas de VO, ni au Pathé, ni au Méga, mais au Méga, c'est habituel. Travis Block intervient pour le compte du FBI lorsque toutes les autres options ont été épuisées. Ces méthodes impliquent souvent la matière forte. Quand on lui ordonne de faire taire un agent qui souhaite révéler à la presse les méthodes du bureau, il comprend qu'il est devenu le pion d'une terrible machination. Déterminé à faire éclater la vérité, il se lance dans un combat contre ceux avec lesquels il a l'habitude de travailler. Mais lorsque ses adversaires s'attaquent à ses proches, Travis retourne ses méthodes contre ses anciens employeurs et il n'aura aucune pitié. Car Olivier, dans 20 minutes, Blacklight ne révolutionne pas le thriller d'action, mais sa nervosité lui permet de remplir son contrat de divertissement riche en décharge d'adrénaline. La rédaction de Télé 7 jours, l'acteur rempile pour la énième fois en action hero et réussit, malgré un scénario en rien balourd, à nous embarquer avec lui. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, malgré un rythme en bande de scie et un scénario qui ne révolutionne pas le genre sur l'abus de pouvoir et la corruption, Le film remplit son cahier des charges avec son climat paranoïaque, fait de complots et de manipulations. Simon Rio dans Écran large, le plus triste dans cet arthritique naufrage, c'est que plus personne n'essaie de dissimuler le désintéressement de Liam Neeson, quitte à fabriquer un faux film de Castagne d'une indigence rare. François Léger dans Première, on savait où on mettait les pieds, mais quand même, bâiller devant Liam Neeson qui électrocute des gens, c'est fort de café. Ben oui, je confirme absolument, oui. C'est un très 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 banal thriller d'action parano sur un complot mené par le FBI. Travis Block est un agent chargé de protéger ses collègues. Il découvre que son patron est l'organisateur d'activités illégales et devient à son tour une cible. Alors, peu importe le scénario et ses péripéties, c'est juste le prétexte à un film d'action bas de gamme, support à la trilogie habituelle du genre, poursuite auto et pédestre, gunfight et baston, sans la moindre originalité. Liam Neeson endosse pour la xème fois un rôle de justicier au grand cœur. Tout est prévisible de A à Z et multiplie les invraisemblances à foison. Qu'importe d'ailleurs, c'est à réserver uniquement aux amateurs peu exigeants de films d'action. Ouais, voilà, c'est au Pathé Quinconce et c'est au Méga CGR. Dernier film cette semaine comme nouveauté sur les écrans mensuels, c'est Les Poings Desserrés de Kira Kovalenko.
Russe.
Russe, oui, bien sûr. Réalisatrice, scénariste, dialoguiste. Elle a réalisé auparavant un film qui semble inédit en France, Sofichka. Les Poings Desserrés, ça dure 1h36. C'est proposé par les cinéastes avec une ou deux séances par jour. Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, une jeune femme, Ada, tente d'échapper à la mainmise de sa famille qu'elle rejette autant qu'elle l'aime. Ariel Schweitzer dans Cahiers du cinéma. En l'absence de toute approche psychologique, les rapports entre les membres de la famille transparaissent dans une mise en scène très physique et tendue, centrée sur les corps. De longs plans séquences montrent les personnages enlacés jusqu'à former un magma de chair où l'individualité de chacun se fond. Michel Levieux dans L'Humanité. Le film Le Poing Serré est à l'image de ce Caucase aux cultures multiples, meurtri par les conflits et donne à l'aide de la mise en scène maîtrisée de Kira Kovalenko et d'acteurs pour la plupart non professionnels, une existence à un cinéma qui jusqu'à présent n'en avait pas vraiment. Olivier De Bruyne dans Les Échos, la réalisatrice russe Kira Kovalenko signe une fiction dérangeante sur une jeune femme aux prises avec sa famille liberticide qui impressionne par son scénario implacable et la virtuosité de mise en scène constamment inventive. Jacques Maurice dans Télérama, Ada est ballottée, tous se la disputent, s'agitent autour d'elle, l'interpellent. On l'écoute peu, elle murmure des mots pourtant qui sont comme des aveux ou des secrets. Son énergie est si belle que la caméra, à un moment, ne produit plus que des images tremblées, saccadées, comme si elle était un oiseau battant des ailes avant l'envol. Mon Dieu. Frédéric Foubert, Première, le parti pris du mutisme et de l'opacité, manque parfois de se retourner contre le film, mais est transcendé par la maestria topographique de la réalisatrice, sa manière très puissante de décrire un petit bout de territoire comme une prison à ciel ouvert. Ça s'appelle Les Poings Desserrés, ça dure 1h36, et c'est proposé par les cinéastes, et j'ai pas du tout envie d'aller le voir.
Ah bah moi j'ai un petit peu envie fait. Il est pas trop long donc.
À 1h36, oui. Allez, avant de vous annoncer les films la semaine prochaine, eh bien encore extrait de la bande originale du film Compagnon, Shook par Drums. J'ai l'impression de parler chinois. Shook par Drums sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
My thoughts, they are not clear, but this feeling's holding tight.
Chouk Drums, un titre que l'on entend dans le film Compagnon. Alors, les avant-premières et les films pour la semaine prochaine. Avant-première au cinéaste, samedi soir à 20h, pour Rien à foutre, en compagnie des deux réalisateurs, Emmanuel Mar et Julie Lecoustre, qui viendront présenter leur film Rien à foutre, donc samedi 26, 20h au cinéaste.
Mais pas Adèle.
Non, Adèle Arcopoulos ne vient pas. Ou alors, ça sera la surprise. Avant-première, maintenant, mardi 1er mars, pour The Batman. Alors, 19h45, VO au Colisée. 19h45, VO au Pâté. 21h, VF au Pâté et Omega. 18h30, 20h15, VF en salle normale. Et 21h, VF en Ice. Voilà, donc, attention, ça fait 2h55, le Batman.
Oula.
Donc, bon. Alors, les autres films à l'affiche de la semaine prochaine, outre The Batman et Rien à foutre, il y aura Belfast de Kenneth Branagh, qui a l'air pas mal du tout, ça. Robuste de Constance Meillard avec Gérard Depardieu. Et Viens, je t'amène de Alain Guiraudy. Voilà, ça, ces films-là, j'en suis quasiment sûr. Il y en a trois au cinéaste, Rien à foutre, Robuste et Viens, je t'amène, The Batman et Belfast dans les circuits normaux. Si on peut dire, Pâté et Méga. Voilà, donc, je rappelle, avant-première, samedi à 20h au cinéaste pour Rien à foutre, en présence des réalisateurs. Et pour The Batman, là, les trois, Colisée, Méga et Pâté, vous proposent le film en avant-première avec de la VF, de la VO, de la Ice et de la salle normale.
Si on C'est peut quoi, dire. Ice
Immersive Cinema Experience.
Oula.
C'est une salle spéciale où on a un son extraordinaire, des lumières sur les côtés puis des fauteuils extrêmement confortables.
D'accord.
Voilà. Il n'y a que les cinémas CGR qui font ça, les méga notamment. Allez, les films qu'on vous recommande cette semaine, Maigret, d'accord?
Ah oui, Maigret, je suis d'accord.
Maigret.
Oui,
oui. Je recommande aussi Zaï 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 pour ceux qui aiment les comédies un petit peu décalées. Compagnon uniquement pour l'aspect documentaire sur les compagnons du devoir. Voilà.
Oui, Maigret, c'est très bien.
Très bien. Oui. Très bien pour les gens d'un certain âge, on va dire. Je pense que pas un jeune n'appréciera vraiment Maigret.
Ouais, d'accord, mais voilà. Faut aimer Depardieu, mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment.
Oui, mais surtout les vieux. Depardieu. Depardieu, ça dit rien aux jeunes, pratiquement. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, allez hop, on se retrouve la semaine prochaine pour Clap sur Radio Alpes en 7.3 FM Le Mans.
Merci, au revoir.